comment allez-vous? Alors, c'est l'histoire d'un mec qui embrasse une fille comme ça, une petite bise de merci parce qu'elle lui a passé une cigarette. Pas de quoi fouetter un chat. Sauf que la fille est méga super connue et que le mec porte un bonnet péruvien ridicule, donc méga super reconnaissable. Et que pile à ce moment-là, un autre gars, mais qui ? A pris une photo et que quand elle circule sur les réseaux sociaux, la petite bise pourrait être un langoureux baiser d'amoureux. À partir de là, tout se déchaîne. Les rebondissements vont à toute vitesse, on ne peut plus lâcher ce livre. Il faut attendre les vacances pour le lire, sinon on ne bosse plus. L'histoire s'appelle « Hashtag bonnet ». Elle est éditée chez Buchet-Chastel et c'est Eliane Gérard qui l'a écrite. C'est le genre de livre qui donne l'impression qu'un trajet de 8 heures ne dure que 20 minutes, donc à lire en bateau, en train ou en avion. Pas en avion de chasse.
Oui, bonjour, je m'appelle Hugo et je voudrais savoir comment décollent les avions. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Léopold et j'ai 5 ans et je voudrais savoir comment les avions décollent sans bouger les ailes. Merci.
Est-ce que vous êtes mignons, tous les deux, mais est-ce que vous êtes mignons? Vous étiez petit garçon, peut-être avec ce style d'interrogation, lieutenant-colonel Arnaud Ambert, avant de devenir pilote. Pouvez-vous leur répondre à ces deux petits garçons? Comment l'avion décolle sans bouger ses ailes?
Avec grand plaisir. Eh bien, en fait, l'avion ne bouge pas ses ailes, il prend de la vitesse. Et en prenant de la vitesse, il y a une dépression qui se crée au-dessus de l'aile et une surpression sous l'aile. Et en fait, ça crée une force vers le haut, et bien, une force de portance. Comme quand vous sortez la main de la voiture, mais restez prudent, vous sentez que votre main, bien, elle est portée par l'air.
C'est vrai.
On s'appuie sur l'air, tout simplement. L'image, ça va être ça. On s'appuie sur l'air. Quand on atteint une certaine vitesse, cette force, elle est supérieure au poids de l'avion. Et donc, on peut commencer à espérer voler.
Donc, contrairement aux oiseaux, les ailes de l'avion ne servent qu'au décollage. Après, pour voler, ça ne lui sert à rien, ces ailes-ci.
Ah si, si, ça lui sert aussi. Parce que si on lui enlève les ailes, il aura beau avoir de la vitesse, à un moment, il va tomber. Il va être en balistique, c'est comme ça qu'on dit. Ses ailes lui servent en permanence à se poser sur l'air.
D'accord.
Alors que les oiseaux, c'est exactement le même principe, sauf que eux, non, leur force de motricité, elle est concentrée sur leur musculature et donc leur capacité à bouger leurs ailes pour prendre de la vitesse et donc créer cette force de portance sur leurs deux ailes.
Mais comme vous, l'oiseau s'appuie sur l'air.
Tout pareil.
Merci au lieutenant-colonel Arnaud Ambert, pilote de chasse. Nous parlions des oiseaux qui, comme vous le savez, volent. Mais ce que vous ne savez peut-être pas ou moins, c'est qu'ils marchent aussi et qu'ils courent. La perdrix rouge, par exemple, peut courir jusqu'à 15 km/h. C'est pas mal, non? Je la ramène un peu. En fait, je viens de le lire dans le livre « Aux oiseaux » de Nathalie Turgeman, qui est édité chez Belin Jeunesse, où on apprend beaucoup de choses sur les oiseaux.
Bonjour, je m'appelle Violette, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir pourquoi les animaux vivent moins longtemps que les hommes. Au revoir.
Bonsoir Violette. Jean-François Toussaint, vous êtes professeur de physiologie à l'université de Paris-Descartes. Que pouvez-vous dire à Violette?
Eh bien, tu sais Violette, on vient de découvrir un requin dans l'Atlantique Nord qui est vieux de 400 ans.
Non,
400 ans, on n'imaginait pas que de tels animaux, et c'est les plus grands requins parmi les poissons, qui puissent durer autant de siècles.
Mais excusez-moi, vous lui avez demandé son âge, il est mort ou comment vous avez fait pour savoir ça?
Non, c'est pas comme Violette qui nous donne son âge.
Oui.
Il ne nous le donne pas, mais en mesurant un certain nombre de facteurs et d'indicateurs, on peut trouver de façon très précise, comme pour les arbres, des éléments qui nous permettent de trouver l'âge à peu près exact de chacun de ces individus. Alors la réponse à la question maintenant que pose Violette passe par le constat de certains facteurs qui ne changent pas, ce qu'on appelle ces invariants des lois universelles. Et l'un d'entre eux, par exemple, va relier l'énergie utilisée par tous les organismes avec la masse. Et la masse d'un organisme, c'est sa taille, très souvent, ça commence par là. Plus on est grand, plus on est lourd. Mais plus on est grand, plus on consomme d'énergie aussi. Et puis en même temps, plus on est grand, et plus le cœur bat lentement. Et plus on vit vieux. C'est très étonnant. Mais parmi les plus grands animaux, qui sont aussi ceux qui ont le moins de prédateurs, on voit ceux qui, les plus grands, finalement, vivent le plus longtemps. Les éléphants parmi les mammifères terrestres, les baleines parmi les mammifères marins, les requins donc chez les poissons, les aigles chez les oiseaux ou les tortues chez les reptiles sont ceux qui, les plus grands, atteignent les âges canoniques les plus avancées.
Donc il y a deux raisons. Il y a l'organisation intérieure du corps de l'animal et il y a l'organisation extérieure comme les prédateurs.
Entre autres. Exactement, et c'est toujours cette discussion entre nos richesses intérieures, ce potentiel, et puis les contraintes de l'extérieur, en particulier qui concernent tout l'environnement, mais l'environnement culturel le définit
aussi. L'histoire
aussi. L'histoire, donc, va être absolument déterminant sur cet élément. Mais l'homme n'a pas l'apanage de la plus longue durée de vie, et loin s'en faut. D'ailleurs, depuis que Homo sapiens existe, depuis environ 300 000 ans, 100 milliards d'hommes et de femmes se sont succédés. Et la moyenne de tous ces individus n'est que de 30 ans.
Pas seuls... plus.
Et non. Et seules les 10 dernières générations ont un peu prolongé leur temps de parcours. Mais ce n'est pas forcément destiné à durer. Donc la règle dans le vivant, que ce soit pour le règne animal ou le règne végétal d'ailleurs, plus on est grand, plus on vit vieux. Et pour la même taille...
C'est bon pour vous ça, Jean-François Touzin.
C'est pas certain, parce qu'il y a d'autres éléments qui vont jouer. Et d'autres de composantes génétiques, entre autres. Mais pour la même taille, si par ailleurs on peut échapper aux prédateurs, et de façon générale à toute contrainte, alors on va vivre plus vieux. C'est typiquement le cas des oiseaux, qui, descendant des dinosaures, ont appris à maîtriser la troisième dimension, et donc échapper à tous les prédateurs terrestres limités aux deux dimensions de notre sol.
Alors effectivement, est-ce que les oiseaux vivent vieux, Jean-François Toussaint ?
Eh bien, pour cette taille, effectivement, ils vivent beaucoup plus vieux. Un passereau va vivre beaucoup plus longtemps qu'une souris, alors que leur poids est à peu près comparable. Et notre seul problème actuellement, c'est que nous ne grandissons plus et que nos prédateurs primaires, cette fois-ci, les virus, les bactéries, se renforcent.
Merci docteur Toussaint. Alors si nous avons ri quand le docteur Toussaint a dit plus on est grand, plus on vit vieux, et j'ai dit ça vous arrange, c'est que j'ai pas osé lui demander. Mais je crois qu'il doit mesurer presque 2 mètres.
J'aimerais tant te dire ce que cache mon sourire au bout de ma langue, syllabe qui tremble. Mais comment choisir le plus fidèle, le plus riche, le plus beau de tous les mots? Des émotions fortes, tout briser la magie des premiers instants. On pourrait se contenter de citer les plus grands, mais avouons que parfois les mots ne sont pas à la hauteur des sentiments. Mais même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. J'aime, j'aime, j'aime quand tu es là. Parle à ma main, embrasse-moi. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. Crique-toi, crique-toi. Toutes mes paroles s'effilent quand tu me scotches. Ma voix stoppée dans sa course, je chute en plein élan. Tes yeux de sniper m'ont ciblé dans le viseur. Un point rouge placé sur mon petit cœur qui battit fort. Oh, fort, oh, fort de moi. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. J'aime, j'aime, j'aime quand tu es là. Parle à ma main, ma main, embrasse-moi. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. Crique-toi, crique-toi.
Mes onomatopées, c'était mes sparrows.
Les petits bateaux sur France Inter.
Avez-vous regardé dans les pâtisseries les figurines que l'on vend pour mettre en haut des pièces montées? En général, ça représente des communiants ou des mariés. Eh bien, les mariés, le monsieur a un costume bien noir et la dame a une robe bien blanche.
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 9 ans et je voudrais savoir depuis quand on se marie en blanc. Merci, au revoir.
Bonsoir Jeanne, depuis quand on se marie en blanc? Il y a justement un historique de ce blanc du mariage dans le dernier livre de Marie-Odile Merniac, Le mariage et ses rites chez Archives et Cultures.
Jeanne, je vais t'indiquer qu'effectivement c'est relativement récent, c'est depuis 1850 dans les villes, depuis 1900-1920 dans les campagnes, tardivement dans les zones de montagne. C'est très récent. En fait, tout simplement parce qu'autrefois, le tissu coûtait très cher. Faire réaliser la robe aussi, parce que pour la robe de mariage, c'était une couturière qui la faisait. Il n'existait pas de magasin de prêt-à-porter à cette époque-là. Et puis en plus, une robe blanche était deux fois plus chère que les autres, puisqu'on pouvait difficilement la remettre. On ne la portait qu'une fois, c'était trop salissant. Donc pour se marier, les jeunes filles choisissaient autrefois leur plus belle robe. Et la plus belle robe, c'était même parfois celle qu'avait portée la mère, voire la grand-mère, lors de toutes les fêtes de la famille. Donc, on se les conservait précieusement et on se les passait de génération en génération. Elles étaient rouges, bleues, noires. Alors, en Bretagne, ça j'aime beaucoup parce que ce sont vraiment les noces les plus colorées. Les noces duraient 3 jours. Alors, la mariée, dans le Finistère, portait le premier jour une robe rouge écarlate avec des dentelles argent, noir et or et une ceinture en argent. Donc, on la voyait, la mariée.
Ouais.
Le deuxième jour, une robe bleue avec des galons rouges, argent et or. Et le troisième jour, la symbolique est belle, une robe simplement marron. Et c'était pour montrer le retour progressif à la vie normale. C'était une belle robe, mais marron quand même. Alors ensuite, au moment de la Seconde Guerre mondiale, il y a quelques cas particuliers. On manquait de tissu, on ne trouvait plus de blanc. Donc souvent, les jeunes femmes se sont mariées dans les années de guerre en tailleur gris ou noir, ou avec les vêtements qu'elles avaient. Elles mettaient simplement un voile sur la tête pour montrer qu'elles étaient la mariée et pour se distinguer des autres invités de la noce.
Ou en rideau. Il y a beaucoup de rideaux qui, je crois, ont fini leur vie en robe de fête. Et puis, dans les familles, il y avait parfois des gens qui cousaient eux-mêmes leur robe de mariée parce que ils ou elles, la plupart du temps c'était des femmes, étaient bien habiles de leurs doigts. Les derniers livres de Marie-Odile Merniac, édités chez Archives et Cultures, sont des livres pour enfants, et ça tombe bien.
Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 17 ans, et je voudrais savoir, est-ce que les insectes éternuent?
Bonsoir Isabelle, j'ai une petite idée. Vincent Albouy, entomologiste, auteur naturaliste, votre dernier livre est édité chez Delachaux et Niestlé, Histoire remarquable des insectes. Alors Isabelle a une drôle de question?
Non, c'est une question intéressante. Elle permet de montrer les différences entre les insectes et les humains et les mammifères, et même les vertébrés. Donc en fait, les vertébrés, ou en tout cas les humains, éternuent parce que l'air qui est contenu dans leurs poumons est brusquement chassé par le diaphragme. Après, bon, c'est des mécanismes que je connais pas très bien, mais en gros, ce sont des poumons pleins d'air qui sont plus ou moins brusquement vidés. Les insectes ne peuvent pas éternuer parce qu'ils n'ont pas de poumons. En fait, ils respirent d'une manière très différente. Les insectes sont presque l'inverse de l'homme. L'homme, qu'est-ce qu'il a? Il a un gros sac ventral plein d'air, c'est la cavité des poumons. Et puis, il a une infinité de petits vaisseaux qui amènent le sang jusqu'à la moindre des cellules. L'insecte, c'est le contraire. L'intérieur de son corps, il n'y a pas de vaisseau sanguin. Tous les organes baignent dans le sang, qu'on appelle l'hémolymphe pour les insectes, avec simplement un cœur qui est une sorte de petite pompe qui remue en quelque sorte cette hémolymphe, ce sang, pour que ça circule. Mais en fait, c'est un peu comme quand on fait tourner un mixeur dans la soupe. Ça fait bouger la soupe, mais en fait, ça ne circule pas dans les tuyaux. Et puis, les tuyaux, eux, vont amener l'air depuis les orifices qui se situent généralement sur l'abdomen, vont amener l'air jusqu'à tous les organes et toutes les cellules. Donc là, il y a une infinité de petits tuyaux qui amènent l'air à l'intérieur du corps. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'éternuement, puisqu'il n'y a pas ce gros sac plein qu'un muscle, le diaphragme, peut vider d'un seul coup.
Comment on le sait, ça? Parce qu'un insecte, c'est tellement petit, Vincent Albouy. Comment on sait qu'il est amené avec tous ces mini-conduits d'air?
Si vous avez, l'insecte, il a une peau extérieure qui est solide, qui est morte. La peau de l'insecte, elle est morte. Il sent à travers les poils qui sont implantés sur cette peau, qui eux sont vivants, mais la peau en elle-même, c'est une peau morte. Et donc, pour grandir, il est obligé de quitter cette peau morte qui ne grandit pas, pour en avoir une plus molle qui va brusquement grossir. C'est ce qu'on appelle la mue. Et quand il y a, par exemple, la dernière mue des larves de libellules, c'est très facile à trouver quand vous promenez au printemps le long des mares ou des marais ou des rivières. Vous avez de la végétation aquatique et sur ces roseaux ou sur ces typhas qui sortent de l'eau, vous avez souvent des dépouilles, ce qu'on appelle des exuvies. Ce sont des dépouilles de larves de libellules d'où est sortie la libellule adulte. Et si vous en prenez une et si vous la regardez, vous verrez une sorte de petite pelote de fil. Ce sont toutes les petites trachées de la larve qui ont été retirées du corps de manière à ce que des nouvelles trachées plus grandes puissent se développer. Alors déjà, on peut disséquer évidemment les insectes pour voir ce réseau très fin, mais simplement en observant une exuvie de libellule, vous pouvez voir
ce réseau. Tuyaux.
Voilà, les tuyaux.
C'était On My Radio. Vous écoutez France Inter, les petits bateaux. Il y a un instant, nous évoquions les robes de mariée que pendant la guerre, on faisait, ma foi, comme on pouvait, comme on n'avait pas de tissu, souvent dans des rideaux, disais-je. Eh bien, il paraît qu'on en faisait aussi dans de la toile de parachute. Et vous pouvez voir ça au mémorial de Caen. Allez, restons dans les vêtements.
Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir comment fabrique-t-on les bouteilles en plastique. Au revoir et merci.
Bonjour, je m'appelle Malo, j'ai 10 ans et je voudrais savoir comment peut-on transformer les bouteilles plastiques en pulls en laine. Au revoir.
Elles sont jolies et intéressantes ces deux questions, Jean-Marc Jancovici. Vous qui avez écrit « La transition énergétique pour tous » édité chez Odile Jacob. Donc, c'est amusant qu'ils disent en pull en laine quand même, parce oui, que ça prouve que la polaire, ça ressemble bien à de la laine.
Oui, oui, oui. Vous savez, c'est pas beaucoup plus farfelu que certaines affirmations qu'on entend parfois dans le monde politique à sa question. Donc, alors, comment est-ce qu'on fabrique une bouteille en plastique? Eh bien, fabriquer une bouteille en plastique, ça prend 15 milliards d'années. Vous savez qu'au moment où l'univers apparaît, il y a un truc qui s'appelle le Big Bang.
Oui.
Alors, le Big Bang vous fait une grande soupe dans laquelle vous n'avez qu'un seul élément à ce moment-là dans l'univers, qui est l'hydrogène. Donc avec de l'hydrogène, vous ne faites pas de plastique, parce que dans le plastique, vous avez aussi du carbone. Enfin vous êtes... Cet hydrogène va servir à faire des étoiles, et cette première génération d'étoiles va vous fabriquer tous les autres noyaux qu'on connaît aujourd'hui sur Terre. L'oxygène, l'azote, le phosphore, le fer, etc., le carbone. Ces étoiles vont vivre quelques milliards d'années,
oui.
Puis elles vont faire boum, ce qui est leur manière à elles de mourir, disséminer ce qu'elles ont produit dans l'univers... Et une deuxième génération d'étoiles, à laquelle appartient le Soleil, naît. Et les poussières qui sont nées de la première génération d'étoiles vont s'être attirées par cette deuxième génération et finir par former des planètes. Et voici la planète Terre qui apparaît, avec elle, pas juste de l'hydrogène, mais tous les éléments qu'on connaît sur Terre. Puis apparaît la vie, il y a 4 milliards d'années. Puis cette vie va notamment créer des êtres qui ont des molécules carbonées, du carbone. Et puis, il y a quelques centaines de millions d'années, une partie de ces êtres, c'est des petites algues ou du petit plancton qui vit dans l'océan, qui existe à cette époque-là. Et puis, ces animaux-là, ils sont comme vous et moi, ils vivent et puis ils meurent. Quand ils meurent, ils tombent dans le fond de l'océan où ils étaient. Alors, c'est près des zones côtières, hein, donc ils tombent pas très profond, quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres. Ils s'enfouissent dans les sédiments. Ces sédiments vont être enfouis dans les profondeurs de la Terre, où ils vont cuire à petit feu et former du pétrole. Uh-huh. Le pétrole remonte vers la surface, chassé par la pression des entrailles de la Terre, et de temps en temps, il est intercepté par une roche poreuse qu'on va appeler un réservoir. Et puis, quelques centaines de millions d'années après, voici des hommes qui vont se balader à la surface de la planète, faire des trous, faire sortir le pétrole et en faire du plastique. Et donc voici comment on fait une bouteille de plastique en 15 milliards d'années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui faire une bouteille de plastique? Eh ben, ça veut dire faire sortir du pétrole de terre, l'envoyer dans une raffinerie où on le décompose en produits dont une partie s'appelle le nafta. Ce nafta est envoyé dans des unités pétrochimiques où on fait du plastique. Après, ce plastique est envoyé dans d'autres usines où on prend des blocs de plastique et on le souffle pour faire des bouteilles en plastique. Voilà. Est-ce que on peut utiliser les bouteilles en plastique pour faire des pulls en laine? Alors, pour faire des pulls en laine, non. Pour faire des pulls, oui. Ce qu'on appelle les fourrures polaires. Alors, cela étant, la question, elle est au fond vraiment très profonde, parce que le pull en laine, c'est quoi? C'est au lieu d'utiliser du plastique qui a mis 15 milliards d'années à se former, on utilise le bagage génétique d'un mouton qui a aussi mis 15 milliards d'années à se former, mais pas de la même manière. Et le bagage génétique du mouton, il nous fournit la laine. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on utilise des ressources naturelles qu'on a trouvées en entrant, qu'on n'a pas créées, qu'on serait incapable de créer, et on va les transformer d'une manière différente. Le mouton, on l'élève et on prend sa laine, et le plastique, on fait un trou et on prend le pétrole. C'est quoi l'intérêt de remplacer, d'utiliser les bouteilles en plastique pour faire des pulls en laine? Eh bien, c'est le pétrole qu'on ne fait sortir qu'une seule fois de terre. Au lieu d'en faire un objet en plastique que derrière on va jeter et ne pas réutiliser, ben on est capable de réutiliser la matière une deuxième fois. Et pour des choses qui ne vont sortir de terre qu'une seule fois, c'est bien de pouvoir réutiliser. Parce qu'une fois qu'on l'aura brûlé, par exemple, ce plastique, ben plus jamais on ne pourra l'avoir comme plastique. Il faudra de nouveau attendre 5 milliards d'années, ce qui est un peu long.
Merci Jean-Marc Jancovici. Alors, il existe maintenant en France une centaine de kiosques qui récoltent les bouteilles en plastique. Suivant les kiosques, elles sont payées 1 ou 2 centimes la bouteille vide. En général, elles sont associées à des supermarchés. Moi, je connais le Leclerc de Saint-Flour ou l'Intermarché des Tempes. Et il paraît que 88 millions de bouteilles ont déjà été récoltées. Les petits bateaux sont terminés, mais vous pouvez bien entendu, je vous le conseille, venir faire un tour sur notre site via franceinter.fr. Nous nous retrouverons ce soir à 22h dans État d'esprit. Je recevrai un alchimiste, un vrai, Patrick Rubin Stenas. Merci à Juliette Delpérou, à Marjorie Devoucou, à Eliane Girard et à Jean-Baptiste Audibert. La semaine prochaine, nous serons en grille d'été et les petits bateaux seront rediffusés pendant tout l'été, mais nous reviendrons en vrai, en chair et en os à partir du mois de septembre. Et puis tout de suite, voici pour la Tulu, mon petit loup, Denis Chessou.